Le journal est présenté par Sébastien Berriot.
Bonsoir à tous. Dans ce journal, nous reviendrons sur cette agression à Strasbourg. Un homme qui portait la kippa a été attaqué au couteau ce matin. La piste d'un acte antisémite est évoquée. Explication à Strasbourg de Corinne Fugler. Emmanuel Macron qui revendique une nouvelle fois son indépendance politique. Le ministre de l'économie l'a montré aujourd'hui en rendant visite à Philippe de Villiers en Vendée, au parc du Puy du Fou. Vladimir Poutine accuse une nouvelle fois l'Ukraine d'avoir voulu préparer des attentats en Crimée. Le chef du Kremlin s'est rendu aujourd'hui dans la péninsule ukrainienne en pleine montée de tensions avec Kiev. Et puis au lendemain des élections municipales en Afrique du Sud, l'ANC perd le pouvoir dans deux grandes villes, Pretoria et Port-Elisabeth, qui ont élu aujourd'hui des maires d'opposition. Une première depuis la fin de l'apartheid. Le récit sur place de Lisa Fabian. La police de Strasbourg enquête sur ce qui ressemble fort à une agression antisémite. Un homme de 62 ans qui portait la kippa a été victime d'une agression au couteau en fin de matinée. Les faits se sont produits dans le quartier juif de la ville. L'agresseur, âgé d'une quarantaine d'années, a été arrêté. Il a des antécédents psychiatriques, mais ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à une personne de confession juive. À Strasbourg, le récit de Corinne Fugler de France Bleu Alsace.
L'agression s'est déroulée vers 11h ce matin, avenue des Vosges, dans un quartier où habitent de nombreuses familles juives. Alors qu'il rentrait des courses, ce Strasbourgeois de 62 ans a été frappé au thorax d'un coup de couteau. Il a réussi à se dégager et à se réfugier dans un bar tout proche où on a pu lui porter secours. Il est à l'hôpital, aucun organe vital n'a été touché. Son agresseur est resté à proximité, il a été rapidement interpellé par la police, il a été placé en garde à vue. L'homme, né en Algérie il y a 44 ans, de confession musulmane, n'est pas un inconnu. En avril 2010, il avait blessé à coups de barre de fer et là aussi avec un couteau, un homme de 42 ans, parce qu'il portait une kippa. Il avait été déclaré pénalement irresponsable. Ce matin, l'agresseur aurait crié « Allahu Akbar » en frappant sa victime, mais les enquêteurs n'ont pas établi de lien avec le terrorisme islamiste. Il s'agirait plutôt ici d'un antisémitisme viscéral.
Corinne Fugler de France Bleu Alsace. La crise migratoire continue de s'aggraver à Calais. Cet été, la jungle de Calais a connu une très forte progression du nombre de migrants, plus 50% depuis la fin du mois de juin. La préfecture a comptabilisé 6900 migrants dans le camp, alors que l'État s'est fixé pour objectif de ramener la population de la jungle à 2000 personnes. C'est une visite qui n'est pas passée inaperçue. Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui au Puy du Fou en Vendée. C'est la première fois qu'un ministre socialiste en exercice visite le parc créé par Philippe de Villiers. Emmanuel Macron a d'ailleurs rencontré sur place Philippe de Villiers, rendant hommage, je cite, à l'entrepreneur culturel. La photo va certainement et sûrement même choquer un certain nombre de militants de gauche. Mais pour le ministre, c'est de la stratégie politique, une manière de réaffirmer son indépendance. Et le ministre a mis des mots très clair sur cette volonté.
L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Je suis au gouvernement, un gouvernement de gauche. J'ai moi-même pris des initiatives politiques qui ne vous ont pas échappé, nous en avons parlé tout à l'heure. Mais, je veux dire, quelle importance. Quand vous êtes ministre de la République. Et donc vous servez l'intérêt général. Ce sont deux belles formules. Servir, d'abord, et l'intérêt général ensuite. Qui est ce qui doit rassembler tous les dirigeants politiques et ce derrière quoi se retrouvent les Français. Et donc, vous êtes ici, sur un territoire qui a été porté justement par ces initiatives, par cet enthousiasme, par cette prise de risque, par cette volonté d'aller de l'avant. Mais c'est une erreur si un ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ne s'y rend pas pour saluer cette initiative et rendre hommage au travail qui a été fait, à la réussite que cela représente. Donc je considère que c'est tout à fait mon rôle. Je trouve que c'est plus que normal que je sois là pour les en remercier et les saluer.
Emmanuel Macron au Puy du Fou, cet après-midi, il répondait aux questions de Célia Kiré. Une visite pour bien marquer son territoire. Vladimir Poutine était en Crimée aujourd'hui, la péninsule annexée par Moscou depuis maintenant 2 ans. Le chef du Kremlin a tenu sur place un conseil de sécurité près d'une semaine après les incidents à la frontière avec l'Ukraine. Un Vladimir Poutine qui n'a rien fait pour apaiser les tensions avec Kiev. Il a une nouvelle fois accusé l'Ukraine d'avoir voulu organiser des attentats en Crimée. À Moscou, les précisions de Caroline Larsen.
Pour l'heure, aucune preuve ne permet d'affirmer que Kiev a eu pour projet d'attaquer des sites de la péninsule sous contrôle russe depuis maintenant 2 ans. Reste que la menace évoquée par Moscou est prise très au sérieux, à tel point que le président russe a décidé de tenir aujourd'hui en Crimée une réunion de son conseil de sécurité. Pour Vladimir Poutine, il est clair que l'Ukraine a organisé des attentats à défaut de pouvoir ou de vouloir, dit Poutine, respecter les accords de Minsk. Le président russe s'est dit persuadé lors de cette réunion que Kiev choisissait de mener des opérations de sabotage pour masquer ses propres défaillances politiques et économiques au peuple ukrainien. Vladimir Poutine a par ailleurs assuré les habitants de la Crimée d'un important renforcement de leur sécurité. Hier, les services de sécurité russes ont quant à eux affirmé détenir l'un des organisateurs des attaques survenues depuis le 8 août dernier. Il s'agirait d'un chef du renseignement ukrainien résidant dans la région de Zaporogie. Côté ukrainien, la version russe est toujours totalement réfutée.
En Syrie, pour la 2e journée consécutive, l'aviation du régime syrien a bombardé aujourd'hui des secteurs tenus par les forces kurdes, notamment la ville d'Assakeh, dans le nord-est du pays. Des frappes qui ont aussitôt fait réagir les États-Unis. Washington a dépêché dans le secteur plusieurs avions pour aider les forces kurdes, mais aussi pour protéger les forces spéciales américaines qui sont présentes dans ce secteur pour conseiller les combattants kurdes. En Mauritanie, de lourdes peines pour les 13 militants anti-esclavagistes qui étaient jugés depuis début août. La cour criminelle de Nouakchott les a condamnés à de la prison ferme, des peines allant de 3 à 15 ans. Ils étaient jugés pour rébellion et usage de la violence contre les pouvoirs publics. Les avocats de la défense s'étaient retirés pour dénoncer une mascarade de procès. Les 13 militants ont décidé de faire appel. En Afrique du Sud, des grandes villes qui tombent aux mains de l'opposition. Après les élections municipales de la semaine dernière et le revers de l'ANC dans de nombreuses régions, l'opposition a pris le pouvoir dans 2 grandes villes, Port-Elizabeth et Pretoria. Une première depuis la fin de l'apartheid et la ville de Johannesburg pourrait, elle aussi, échapper à l'ANC. En Afrique du Sud, correspondance de Lisa Fabian.
L'Alliance démocratique assoit sa victoire dans les villes de Pretoria et Port-Elizabeth, mais sans majorité absolue. Effectivement, aucun accord définitif n'a pu être trouvé avec le parti de gauche radical, les combattants de la liberté économique. Son jeune leader, Julius Malema, a annoncé que le parti EFF resterait dans l'opposition et ne participerait à aucune coalition. Il a néanmoins choisi d'apporter son soutien à l'Alliance démocratique pour l'élection de ses candidats à la mairie de Port-Elizabeth et à celle de Pretoria. Ce jeudi, Atol Trollip a pris ses fonctions dans la municipalité de Nelson Mandela Bay lors d'un premier conseil municipal perturbé par les sifflets de l'ANC, désormais opposition officielle dans la ville de Port-Elizabeth. Ce vendredi, l'Alliance démocratique a aussi pu élire officiellement son candidat Solim Simanga à la mairie de Pretoria, la capitale politique sud-africaine. En minorité numérique, l'ANC n'avait même pas présenté de candidat. L'Alliance démocratique est désormais officiellement aux commandes à Port-Elizabeth et Pretoria, mais le sort de Johannesburg reste incertain. Arrivé en tête des scrutins dans la ville, l'ANC n'y a pas de majorité absolue et le parti EFF de Julius Malema a rejeté catégoriquement toute alliance avec le parti au pouvoir.
Au Gabon, première réaction du camp Bongo après l'annonce d'une candidature unique de l'opposition pour la présidentielle du 27 août. Pour le porte-parole du président sortant, le ralliement de plusieurs opposants à la candidature de Jean Ping est, je cite, un coup de force contre la démocratie et le peuple. Et puis en France, l'État a décidé de s'opposer aux tests salivaires que le Conseil régional d'Île-de-France voulait mettre en place pour détecter les consommateurs de drogue dans les lycées. Le préfet de région région estime que les élus régionaux outrepasseraient ainsi leurs compétences en matière sanitaire et sociale. La présidente de région, Valérie Pécresse, conteste, elle, ce point de vue en expliquant que ces tests salivaires s'inscrivent pleinement, justement, dans les compétences régionales en luttant contre le décrochage scolaire. Les prévisions de Météo France pour demain, ce sera pluvieux le matin sur une zone comprise entre le sud-ouest et la Bourgogne. L'après-midi, c'est l'est du pays qui sera touché également par les précipitations. Les températures l'après-midi, 19 degrés à Cherbourg, 24 à Paris et Strasbourg, 27 degrés à Perpignan et 31 pour Bastia. 22h10 sur France Culture. Merci d'avoir suivi ce journal qui a été préparé avec Meta Chiteya. Je vous souhaite de passer une excellente nuit.